Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes sur Graphite ce matin avec les étudiants et étudiantes du cours WE1 de l'Université Technologique Questionner le Web, un cours que j'anime avec mon collègue Quentin Duchemin. Ce matin, donc, c'était les présentations des projets que vous avez réalisés ce semestre. Donc ce sera, pour nous, c'est la dernière présentation et ce sera prolongé mercredi donc avec Quentin, mercredi après-midi. Donc je suis en studio avec Lila Lemagnan, Louis Pacino, Timothée Cogourdon et Benoît Leroux, pardon pour avoir accroché ton nom. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, vous allez nous parler l'un comme l'autre d'intelligence artificielle. Alors le cours ne porte pas spécifiquement sur l'IA, il pose d'une façon générale sur l'Internet, le web, le capitalisme de surveillance, la société algorithmique et donc bien entendu, eh bien, depuis 2022 environ, 2022-2023, eh bien, notre cours est percuté par l'arrivée de l'IA générative. Et donc un certain nombre des projets que vous menez, eh bien, cherchent notamment à faire des liens entre ce que l'on voit en cours et puis les nouveautés liées à l'IAG. Je ne vais pas en parler beaucoup plus longtemps, je vais donc laisser la main à Lila et Louis si vous êtes prêts. Donc pour la première intervention, l'intelligence artificielle entre révolution numérique et enjeux algorithmiques, avec l'exemple particulier de DeepSeek. C'est quand vous voulez.
Parfait. Alors bonjour à tous, donc, nous sommes deux élèves en tronc commun à l'UTC, suivant l'UV WE1 qui consiste à comprendre comment questionner le monde du web. Nous allons aujourd'hui parler de l'article de Mediapart intitulé « Derrière la sensation DeepSeek, le plan méthodique de Pékin pour s'imposer dans l'IA », publié en février 2025 par François Bougon, un journaliste français ayant travaillé pendant 16 ans pour l'agence France Presse, dont 5 à Pékin. Il est ainsi spécialisé sur la Chine et l'Asie en général. Dans son article, il explicite l'onde de choc causée par l'apparition de la première intelligence artificielle générative chinoise nommée DeepSeek, qui signifie littéralement « recherche profonde ». En effet, début 2025, la Chine a frappé un grand coup avec la création de DeepSeek, un nouveau modèle d'IA low cost qui aurait coûté seulement 5,6 millions de dollars à développer contre 80 millions de dollars pour ChatGPT-4. Aux États-Unis, cette annonce a causé la panique et forcé la Silicon Valley à se remettre en question. Comme le souligne François Bougon, DeepSeek prouve avant tout que la course à l'IA est loin d'être finie. Certains parlent d'un moment Spoutnik numérique, en référence à l'envoi en 1957 par l'Union soviétique du premier satellite artificiel dans l'espace. Appliqué à notre sujet, cela illustre que la soi-disant domination américaine n'est plus acquise et qu'il faut rester vigilant face à l'émergence de concurrents inattendus. Ce succès est loin d'être un hasard. Il s'inscrit dans une stratégie politique claire. Dès 2017, Xi Jinping avait lancé un grand plan pour faire de la Chine le leader mondial de l'IA d'ici 2030. Or, pour le régime communiste, l'IA n'est pas qu'un simple vecteur de croissance. Elle lui permet d'obtenir, comme avec le secteur du numérique, un moyen de contrôle politique, comme le dit François Bougon dans son article. Autrement dit, cet investissement massif dans l'innovation privée, au travers de start-up, universités ou encore grands plans nationaux, cache une volonté d'utilisation à des fins politiques. Au cœur de cette stratégie, l'IA joue donc un double rôle, économique et politique. Cela signifie que l'État tire parti, je cite, « des meilleurs talents universitaires, de la collaboration en matière de logiciels libres et de réglementations souples pour développer son IA, tout en déployant ses outils pour surveiller la société », explique Marina Zhang, professeure à l'Institut des relations Australie-Chine de l'Université de technologie de Sydney, dans son livre « Démystifier la machine à innover de l'IA, un ordre chaotique » publié en 2021. Par exemple, au Xinjiang, région peuplée de Ouïghours, la reconnaissance faciale est omniprésente. La province est devenue un laboratoire de l'oppression high-tech, exprime François Bougon dans son article. L'IA sert ainsi de moteur de développement tout en alimentant des systèmes de surveillance sophistiqués, caméras ou détection faciale. Ces constats rejoignent ceux d'autres observateurs, comme celui de Josh Chin, journaliste et auteur du livre « État de surveillance, la quête de la Chine pour lancer une nouvelle ère de contrôle social », publié le 13 mai 2024, qui souligne, je cite, « qu'aucune entreprise technologique prospère n'est autorisée à exister longtemps en Chine sans prouver son utilité au parti communiste ». Il prend l'exemple d'Alibaba, leader mondial du commerce en ligne B2B, c'est-à-dire d'entreprise à entreprise, qui vend ses données comme une boule de cristal comportementale aux fonctionnaires du gouvernement, relève-t-il. Par ailleurs, la chercheuse Angela Daly notait déjà en 2019 dans un rapport intitulé « Intelligence artificielle, droits humains, justice sociale et développement » que l'usage intensif de la reconnaissance faciale au Xinjiang montrait comment les technologies de l'IA sont utilisées en Chine pour renforcer les inégalités existantes. En effet, Angela Daly exprimait que les Ouïghours et d'autres minorités au Xinjiang sont ciblés sur des critères ethniques et religieux. Ces observations confirment que derrière ce progrès technique se cache alors une dualité entre économie et contrôle de la population. Pour conclure, l'émergence de DeepSeek ravive la course mondiale à l'IA. Cette progression rapide et inattendue montre que la Chine entend occuper une position de premier plan dans ce domaine. La dynamique est alors claire. L'avenir de l'intelligence artificielle se construira probablement en Chine. Selon une étude réalisée par Didier Taormina, directeur de Simadia au Conseil, sur le rapport AI Index produit par l'université de Stanford en 2025, la Chine aurait 15 modèles d'IA notables en 2024. Cependant, il ne faut pas fermer les yeux sur les autres acteurs mondiaux, tels que par exemple les États-Unis, avec leurs quelques 40 modèles d'IA en 2024, ou encore l'Europe qui fait bien pâle figure avec ses 3 modèles d'IA. D'où la stratégie de méfiance adoptée dès la sortie de DeepSeek par l'Occident, la Corée du Sud ou encore l'Australie, en raison des problèmes de confidentialité et de sécurité des données. Ce qui nous suggère donc de suivre de près ces développements et de penser dès maintenant au futur rapport de force. Je laisse maintenant la parole à ma camarade pour présenter la société algorithmique.
Notre article est directement en lien avec une notion de notre cours, la société algorithmique. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Ce qu'on appelle la société algorithmique est l'idée selon laquelle les pouvoirs publics s'appuient massivement sur des algorithmes pour réguler, orienter et parfois anticiper les comportements des citoyens. Concrètement, l'État et les villes prennent de plus en plus de décisions à partir d'un traitement automatisé de données, souvent issus de dispositifs de surveillance. Par exemple, depuis 2019, la Direction générale des finances publiques, DGFiP, en France, utilise un système de data mining. C'est une pratique d'analyse statistique couplée avec le machine learning dans le but de repérer des tendances ou modèles qui vont au-delà de la simple analyse. Et dans le cas de la DGFiP, le data mining est utilisé pour repérer des risques de fraude. L'algorithme produit des scores de risque pour chaque contribuable et hiérarchise les dossiers à contrôler pour les inspecteurs. Ce système s'empare de grandes quantités de données personnelles litigieuses afin de repérer des incohérences, identifier les revenus ou activités non déclarées et de mieux cibler le contrôle des dossiers grâce à cette automatisation. Globalement, ces systèmes repèrent des irrégularités statistiques à partir du comportement habituel d'un individu. Ils produisent des prédictions, puis orientent l'action publique. On passe ainsi d'une gouvernance réactive, répondre à un problème une fois qu'il arrive, à une gouvernance préventive, pilotée par des calculs capables d'intervenir avant même que certains comportements ne se manifestent. Aujourd'hui, ce n'est plus un scénario futuriste. Ces technologies existent déjà autour de nous. Des villes comme Singapour s'appuient sur des caméras dites intelligentes, capables de repérer automatiquement des comportements jugés suspects. Grâce à des plateformes d'analyse vidéo comme TrueEye, les images de vidéosurveillance peuvent être traitées en temps réel pour détecter par exemple une zone soudainement saturée par une foule et en alerter immédiatement les autorités avant qu'elles puissent intervenir et réguler les flux. Ces outils techniques ne servent pas seulement à la gestion des foules, ils permettent également d'identifier des intrusions, de surveiller des espaces sensibles et d'assurer un suivi automatique des actifs ou des équipements. En Chine, des systèmes comme SharpEyes évaluent la fiabilité sociale d'un individu. Ce logiciel encourage les villageois, les familles, amis et autres à se surveiller les uns et les autres en leur donnant accès au système de surveillance. Je cite, « Grâce à des boîtiers de télévision spéciaux installés chez eux, les habitants pouvaient regarder les images de sécurité en direct et appuyer sur un bouton pour appeler la police s'ils voyaient quelque chose d'anormal. » D'après l'article de Paris Singularity, le programme SharpEyes de la Chine vise à surveiller 100% de l'espace public, publié par Loïc Bardon en 2021. Il existe aussi d'autres types d'algorithmes qui, par un système de notation, va classer les citoyens en leur attribuant des points. Plus on en a, mieux que c'est. Ce système est à la base de ce qu'on appelle le crédit social, sujet traité par Envoyé spécial en 2019 dans son reportage « Chine, tout est sous contrôle », dont nous allons faire écouter le teaser.
Aujourd'hui, quelque part en Chine. Chaque fait, chaque geste est scruté par des centaines de millions de caméras. À 18 ans, Wang Lu s'est vu attribuer une note, 1000 points, qui évolue en fonction de ses actions. Elle jette un papier par terre. C'est une incivilité qui lui coûte 50 points. Elle traverse au feu rouge, moins 100 points. Mais si elle décide d'aider son prochain, en donnant son sang par exemple, sa note remonte, 900 points. elle signale la présence d'un délinquant à la police et la voilà qui atteint le niveau supérieur. 1100 points.
Pour comprendre ce fonctionnement, il faut distinguer deux catégories d'algorithmes. D'abord, les algorithmes classiques, basés sur des règles fixes et compréhensibles, écrits par des humains, dans un langage comme Python par exemple. Ensuite, les algorithmes issus de machine learning, comme ceux utilisés par ChatGPT ou bien DeepSeek, qui apprennent à partir d'immenses ensembles de données et produisent des résultats impossibles à expliquer clairement. C'est pour cela qu'on les appelle aussi des boîtes noires. On observe bien les entrées et les sorties, mais pas le raisonnement interne. Pour les gouvernements ou entreprises et bien organisations, ces outils sont idéaux car ils permettent d'analyser en temps réel des informations et de prédire des risques provenant des transports, des réseaux sociaux ou des services publics. Par exemple, l'IA permettrait notamment de protéger des ouvriers travaillant sur des sites de construction où se déplacent des équipements lourds, ce qui les expose bien évidemment à des dangers variés. Ces systèmes identifieraient les solutions dangereuses et contribueraient à éviter des graves blessures grâce à des alertes précoces. Cette vision s'inscrit dans un imaginaire techno-utopiste, celui d'un État devenu une machine rationnelle, si vous voulez. On lui associe trois grandes promesses. D'abord, l'efficacité et la rapidité, avec des décisions quasi instantanées là où la bureaucratie prendrait des semaines. Ensuite, la réduction des biais, puisque les décisions seraient fondées sur des données objectives plutôt que sur des émotions humaines. Enfin, la prévention et la sécurité, grâce à sa capacité de prédire des problèmes avant qu'ils ne surviennent. Mais cette vision idéale s'oppose à plusieurs limites majeures. L'utilisation massive d'algorithmes peut au contraire renforcer les inégalités, selon les données sur lesquelles ils apprennent. En effet, l'IA apprend à partir de données passées. Or, ces données reflètent nos biais et les inégalités systémiques persistantes, comme avec, par exemple, l'inégalité des sexes. En fin de compte, les algorithmes ne corrigent pas les biais, mais malheureusement, les reproduisent. Elle peut aussi réduire le pouvoir d'agir des citoyens, puisque ces systèmes opaques sont difficiles à comprendre et à contester. Enfin, elle peut créer une illusion d'objectivité et de contrôle, masquant le fait que ces technologies ne sont jamais neutres et qu'elles transforment en profondeur la manière dont nous sommes gouvernés. On peut dire que ces algorithmes refaçonnent complètement notre vision du monde. Il serait alors intéressant de faire un lien avec un autre concept de notre cours, la non-neutralité de la technique. Mais alors, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, la technique se réfère à un ensemble d'outils, de moyens ou d'instruments dont dispose l'homme pour modifier l'environnement qui l'entoure. La neutralité en tant que telle est définie comme un caractère à la fois positif et négatif d'une chose quelconque. On entend souvent dire que la technique est neutre, c'est-à-dire que ce n'est qu'un outil et que tout dépend de l'usage que les humains en font. Or, le créateur de l'objet est désormais responsable de l'impact de son invention et a pour rôle d'en contrôler les conséquences. Reprenons par exemple l'argument du couteau de notre cours sur la TESTAC réalisé par Stéphane Croza pour illustrer notre propos. Les techniques en tant que telles sont neutres, c'est-à-dire ni bonnes ni mauvaises, tout dépend des usages que nous en faisons. Un couteau ne peut-il pas en effet autant servir à beurrer une tartine qu'à tuer une personne ? Si nous appliquons cela à notre sujet, l'intelligence artificielle, et notamment dans le cadre de l'éducation, qui a profondément remodelé la manière dont nous, étudiants, comme professeurs, réfléchissons et nous comportons face au travail intellectuel, elle ne se contente plus de faciliter l'accès à l'information, elle transforme nos pratiques intellectuelles, la manière dont nous cherchons, analysons et formulons le savoir. Traditionnellement, le travail intellectuel reposait sur plusieurs étapes. Consulter différents liens, comparer des points de vue parfois contradictoires, trier l'information, puis construire progressivement un raisonnement personnel. Avec l'IA, et notamment ChatGPT, une partie de ce processus est désormais prise en charge par l'outil lui-même. L'information n'est plus seulement accessible, elle est déjà organisée, synthétisée et formulée sous une forme cohérente. Pour illustrer cette évolution, Éthique, une école d'informatique française, a publié en 2024 un article intitulé « Comment ChatGPT devient un moteur de recherche ». On y apprend que ChatGPT enregistre une croissance rapide d'utilisation, notamment pour des recherches en profondeur. Selon certaines enquêtes, environ 30% des étudiants et jeunes actifs utilisent ChatGPT pour des recherches complexes, préférant les réponses organisées et structurées à la multitude de résultats. Cette préférence n'est pas anodine. Elle révèle une dépendance cognitive progressive. Les utilisateurs s'habituent à déléguer non seulement la recherche d'informations, mais aussi leur organisation et leur mise en sens. Peu à peu, l'outil influence nos attentes, ce que nous considérons comme une bonne réponse, une bonne explication, voire une bonne manière de raisonner. Ainsi, l'IA n'est pas un simple outil neutre que l'on utiliserait ponctuellement. Elle façonne nos habitudes intellectuelles, accélère certains raisonnements et en simplifie d'autres. et tend à imposer une forme dominante de pensée fondée sur l'efficacité, la clarté immédiate et la synthèse. C'est précisément en cela qu'elle illustre la non-neutralité de la technique et s'inscrit pleinement dans la logique de la société algorithmique qui oriente les usages, structure les comportements et reconfigure nos pratiques sociales et cognitives. Pour conclure, la société algorithmique transforme donc radicalement le moyen de fonctionnement de l'État. Elle promet rationalité, rapidité et sécurité, mais elle soulève en même temps des enjeux éthiques essentiels autour de la transparence, de l'équité et du pouvoir des algorithmes. Donc lorsqu'on réfléchit aux algorithmes aujourd'hui, ce n'est pas seulement parler de l'aspect technique, c'est réfléchir à l'avenir même de nos sociétés démocratiques.
Merci beaucoup à tous les deux. J'ai l'impression que ça nous fait une bonne transition avec la seconde présentation donc, de Timothée et Benoît. Vous allez continuer de nous parler d'intelligence artificielle. Il y a comme nouvelle habitude, et en particulier faire le lien avec les géants de la tech. C'est parti pour vous.
Exactement. Donc, on nous a déjà présenté, mais bonjour à tous. Nous sommes donc Benoît Leroux et Timothée Cogourdon, deux étudiants de l'UTC en tronc commun. Dans le cadre de notre UVWRE01 Questionner le web, nous allons aujourd'hui vous présenter les résultats de nos recherches pour notre article intitulé « L'influence des géants de la tech, l'IA comme nouvelle habitude ». Ainsi, tout d'abord, nous allons découvrir comment les entreprises de la tech nous poussent implicitement à utiliser l'IA. Pour cela, nous allons nous baser sur un article intitulé « Comment les entreprises de la tech nous forcent à utiliser l'IA ». Ensuite, nous vous parlerons de la notion de captologie, qui décrit comment les technologies sont conçues dans le but de modifier nos comportements. Et enfin, nous présenterons comment les entreprises de la tech utilisent des techniques et des biais présentés dans la seconde partie pour nous inciter à utiliser l'IA.
L'article « Comment les entreprises de la tech nous forcent à utiliser l'IA » a été publié en septembre 2025 sur le site internet limitenumérique.fr par Nolwenn Modet, maître de conférence en design à l'Université de Strasbourg, Anaëlle Bénion, designeuse d'interaction spécialisée dans les impacts environnementaux et sociaux du numérique, et par Thomas Thibault, designer numérique et chercheur en éco-conception. Les IA ont une place stratégique dans nos interfaces. Prenons l'exemple de Snapchat, une application de messagerie très utilisée chez les jeunes, et bien le chatbot MyAI, qui apparaît comme s'il était un contact comme les autres, occupe toujours la place la plus haute dans la discussion, même si les utilisateurs n'interagissent jamais avec lui. Il se passe exactement la même chose sur WhatsApp. Celui-ci, qui a en plus d'une fonctionnalité d'IA sous la forme d'un contact, apparaît également sous la forme d'un outil pour écrire un message. Il remplace aussi le bouton habituel pour lancer une recherche. Il y a également un schéma similaire avec Google Messages qui promeut l'utilisation de nouvelles fonctionnalités liées à l'IA. Les fonctionnalités liées à l'IA d'applications bureautiques sont également mises en avant via l'apparition de fenêtres présentant leurs nouveaux outils permettant l'usage de celles-ci. Nous pouvons citer comme exemple Adobe Photoshop, Microsoft Skype, Slack ou encore Google Docs. La façon dont celles-ci sont amenées aux personnes entraîne une intervention dans leur flux de travail. De nombreuses infobulles et bannières font la promotion de l'IA dans les interfaces et nécessitent souvent au moins un clic pour être supprimées. Il y a également la mise en valeur de l'IA. Dans l'outil Acrobat Reader, les fonctionnalités liées à l'IA sont mises en avant par rapport aux autres. Pour cela, celles-ci sont affichées avec une couleur spécifique, un dégradé de couleur, ainsi qu'une animation pour inciter les utilisateurs à sélectionner ces outils plutôt qu'un autre. En effet, les autres outils utilisent une police classique et sont écrits en noir. Il y a également au moins 6 moyens différents d'accéder à l'IA, comme par exemple dans la barre d'outils ou quand la personne sélectionne un texte. Tous ces outils sont activés par défaut et l'utilisateur ne peut les désactiver qu'une fois l'application ouverte. Leur désactivation est même souvent difficile, et dans certains cas, l'option de désactivation n'existe même pas. Comme par exemple avec l'outil MyAI de Snapchat, mentionné plus tôt, qui n'est pas désactivable. Je laisse maintenant la parole à mon collègue pour vous présenter notre concept de cours, la captologie.
Exactement. Donc, en 1996, durant les débuts d'Internet, le terme captologie, acronyme de Computers as Persuasive Technology, voit le jour dans un des laboratoires de l'université de Stanford, aux États-Unis, monté par B.J. Fogg, un chercheur américain. En 2002, il écrit un livre intitulé Persuasive Technology, Using Computers to Change What We Think and Do, dans lequel il pose les fondements de cette discipline qui explore la manière dont les technologies informatiques peuvent être conçues pour influencer les habitudes et les comportements humains. La captologie est en fait un croisement entre les sciences comportementales, qui décrivent les comportements humains, et les usages de l'ordinateur, via les algorithmes. Si la captologie fonctionne si bien, c'est parce que nous sommes influençables. Notre cerveau emprunte des raccourcis qui, la majeure partie du temps, nous poussent à prendre des décisions hâtives. C'est ce que nous appelons des biais cognitifs. Par exemple, il existe le biais de confirmation, qui est une tendance de notre cerveau à n'accorder de l'importance qu'à nos croyances déjà préexistantes. La plupart de nos fils d'actualité exploitent ce biais pour augmenter l'engagement de l'utilisateur. En étudiant ces biais, Fogg propose un modèle en 4 étapes pour que nos comportements deviennent des habitudes. Ce que l'on entend par habitude, ce sont des comportements qui sont réalisés avec peu ou pas de conscience. Alors premièrement, il faut un signal externe, c'est-à-dire un déclencheur. C'est ce qui amène l'utilisateur à utiliser le produit. Ensuite, on a l'action qui consiste à créer une interaction avec l'utilisateur qui doit être la plus simple possible. De plus, il faut une récompense qui doit être variable pour équilibrer satisfaction et frustration. Et enfin, on a l'engagement, c'est-à-dire comment donner envie à l'utilisateur de s'engager indépendamment de cette récompense. Pour mieux comprendre ces étapes, faisons un lien avec les machines à sous qui illustrent chacune justement des étapes citées précédemment. Tout d'abord, pour le signal externe, nous pouvons parler des lumières, des sons, des couleurs vives et des animations présents dans les casinos et dans les machines à sous qui attirent notre attention. Ensuite, pour l'action, celle-ci est toujours simple puisqu'elle consiste simplement souvent à presser un bouton ou tirer un levier. Pour ce qui est des récompenses variables, les gains sont aléatoires et imprévisibles. Et enfin, l'engagement. Comme le joueur parie son propre argent, il y a souvent une question d'investissement personnel. Ce concept a ensuite été très repris dans l'industrie de la tech, et notamment par les GAFAM, comme Facebook, Instagram. Et aujourd'hui, la captologie est omniprésente sur les applications de nos smartphones. Pour illustrer cette idée, l'application Snapchat, qui est le second réseau social le plus utilisé chez les jeunes Français, derrière Instagram, d'après une étude de Diplomeo réalisée en 2025, nous semble intéressante à étudier. En effet, tout d'abord, il y a le signal externe sous la forme d'une notification sonore, visuelle ou vibrante. Celle-ci nous coupe de ce que l'on était en train de faire, elle interrompt notre pensée, notre discussion, etc. et donc bien nous force à aller sur l'application. Ensuite, on a l'action qui consiste à répondre au message qui nous a été envoyé. On a ensuite la récompense variable avec les flammes. En effet, chaque jour, il faut envoyer une photo à quelqu'un et cette photo fait augmenter la série de flammes lorsque la personne en face nous répond. Techniquement, il n'y a ici aucune variation dans la récompense, puisque les flammes sont l'unique, puisque celles-ci sont uniques et augmentent uniquement de manière stable. Mais les flammes sont finalement devenues un symbole social, les séries de flammes entre personnes étant visibles par tout le monde. Plus la série est importante, plus la relation semble exceptionnelle. Enfin, on a l'engagement à travers les stories. En effet, celles-ci ne restent que 24 heures, il est donc obligatoire de se reconnecter chaque jour pour être sûr de ne rien manquer. Vous l'avez compris, la captologie façonne nos pratiques numériques. Voilà, on va passer donc à un petit extrait audio.
There are three things that have to happen at the same moment to cause a behavior. Number one, there has to be some level of motivation. You got to want to keep your teeth clean. You got to want to get stronger with push-ups or something like that. Next, you got to have the ability to do it. And then there has to be a trigger. Now, when I say trigger, I mean call to action. It's the thing that says, do push-ups now, floss your teeth now, and so on. And it's these three things together. When they combine at once, then the behavior will also occur, a behavior whether it's floss your teeth, do push-ups, what have you, send a thank you note. Now, motivation and ability are trade-offs. And this line, this curved line, represents that trade-off. And if you're anywhere above the line, and the trigger occurs, you will do the behavior.
Dans l'extrait que vous venez d'écouter, BJ Fogg le fondateur de la captologie, explique qu'un comportement, behavior en anglais, apparaît lorsque la motivation, la facilité de l'action et un déclencheur sont réunis simultanément. Voilà, je laisse la parole à mon camarade pour la troisième partie.
On ne peut plus ignorer l'omniprésence de l'intelligence artificielle dans nos applications quotidiennes. Ce n'est pas qu'une simple tendance, c'est un choix assumé, car les entreprises ne se cachent plus de nous surexposer à l'utilisation de l'IA, et aussi parfois un choix forcé, en nous mettant à disposition des interfaces liées à l'IA de manière exagérée, comme vu avec Acrobat Reader qui possède plus de 6 moyens différents d'utiliser l'IA. Que ce soit sur Snapchat, WhatsApp ou même dans Acrobat Reader, l'IA s'affiche au premier plan, quitte à parfois encombrer notre expérience, comme avec ses options activées d'office et pas simples à désactiver. L'objectif, nous orienter, voire nous habituer à utiliser ces nouveaux services. Ces techniques qui nous poussent à utiliser l'IA rappellent des mécanismes de psychologie comportementale. Le but n'est plus seulement de proposer une fonction, mais de nous inciter à l'utiliser, presque malgré nous. Les fenêtres qui apparaissent, les appels insistants, les couleurs qui attirent l'œil, les chemins détournés pour accéder à une option, tout est pensé pour capter notre attention, nous interrompre ou nous donner envie de cliquer. Ces nouvelles interfaces reprennent des mécanismes éprouvés pour retenir l'utilisateur qui sont expérimentés depuis des années dans le champ de la captologie. En croisant ces deux champs de recherche, l'envahissement des interfaces de l'IA et les techniques comportementales décrites par des chercheurs comme Fogg, on comprend que l'intégration de l'IA n'est pas qu'une avancée technique. C'est aussi un terrain idéal pour déployer des stratégies de persuasion. Prenez le signal déclencheur, une notification qui vous invite à tester une nouvelle fonction IA ou un bouton qui clignote. L'action est d'essayer. La récompense, un gain de temps promis, une suggestion qui tombe à pic, un résultat qui semble magique. Et peu à peu, l'engagement s'installe. À force d'y avoir recours, on finit par intégrer l'outil comme une évidence, une étape naturelle de notre usage quotidien des applications. Cela soulève des questions éthiques et remet en question la liberté des utilisateurs. Sommes-nous donc vraiment libres d'utiliser ces outils ? Ainsi, vous l'avez compris, l'IA est devenue omniprésente dans toutes nos applications quotidiennes. En effet, la plupart de ces fonctions sont activées par défaut et sont souvent difficiles à enlever. Il suffit de prendre l'exemple de Snapchat, Acrobat Reader ou bien même encore de WhatsApp. Toutes ont intégré l'IA en premier plan, mais derrière cette apparente innovation se cache une véritable stratégie d'influence.
Merci à tous les deux. On va faire une pause musicale, le temps de prendre les questions et on revient après justement pour les questions.
With a fist full of steel. bowing down, then let me do the cutting.
De retour en studio, donc dans le cadre du cours WE1 Questionner le web de l'Université de technologie de Compiègne. Donc je suis en studio avec Lila, Louis, Timothée et Benoît. On a parlé d'intelligence artificielle à travers les enjeux algorithmiques d'un côté, les éléments de design qui en font des habitudes plus ou moins malgré nous, d'un autre côté. Alors écoutez, je vous pose une question un peu commune et puis je vous laisse peut-être y répondre chacun avec vos angles, avec les angles que vous avez abordés dans vos travaux. On pourrait, je reviens sur une question qu'on a déjà un peu abordée tout à l'heure, mais on pourrait rêver à avoir envie d'une IA en quelque sorte qui pourrait être neutre. Hein. Vous nous avez dit à un moment que ça posait des problèmes de neutralité. On pourrait avoir envie de fabriquer une IA un peu parfaite, voilà, où si on imagine des gentils ingénieurs qui vont la concevoir, qui vont tout faire bien comme on a envie, etc. Et voilà, ce que j'ai envie de vous demander, ou plutôt vous inciter un peu déjà à la réponse, mais c'est de nous montrer pourquoi en fait, même dans ce cadre un petit peu idéal, ben finalement, in fine, on n'aura jamais quelque chose de neutre, que quelque part, c'est pas possible. Il y aura toujours une certaine configuration qui arrivera, et une reconfiguration aussi, je vous laisse peut-être... Allez-y, si ça vous va.
D'accord. Eh bien, pour l'aspect neutre de la conception de l'IA, via les aspects qu'on a présentés avec les liens avec la captologie, on a pu voir que ça ne pouvait pas être neutre, car les ingénieurs qui designent ces IA vont souvent avoir envie de les designer d'une manière à ce qu'elles soient en lien avec des biais cognitifs auxquels nous sommes sensibles. Donc... car ils voudraient comme objectif que nous ayons comme réflexe instinctif de l'utiliser dès que nous avons une problématique, une question à développer, ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça que leur manière n'est pas neutre, car ils désignent toujours d'une même manière spécifique pour attirer l'attention, pour que cela devienne normal pour nous d'utiliser comme moteur de recherche, comme, par exemple.
Ouais, c'est ça. Donc, ce que vous nous avez montré, c'est que même si on avait des ingénieurs avec que des bonnes intentions, bon, déjà, on ne sait pas forcément ce que ça voudrait dire, parce que les bonnes intentions seraient toujours pour certaines personnes et pas pour d'autres. Mais même dans ce cas-là, eh bien, ils chercheraient naturellement à faire un design qui fonctionne de leur point de vue, etc. Donc, ils introduiraient des biais de conception. Mais j'ai envie de rebondir et du coup de vous relancer également la question. C'est-à-dire que même en imaginant, on a vu que c'était pas possible, mais même si on imagine qu'on est des ingénieurs qui n'ont introduit aucun biais de conception, est-ce que malgré tout, dans ce que vous nous avez dit, on n'aurait pas quand même des problèmes qui apparaîtraient?
Très bonne question.
Très bonne question.
Je pense que ces problèmes, dans tous les cas, finiraient par ressortir, puisque si je reprends notre cours de WE1, donc je reprends une citation qui dit que nos usages, nos intentions, nos projets, ce que l'on veut faire, sont déjà préconfigurés par l'accès au monde rendu possible par notre expérience qui s'exerce via la technique. Cela montre bien que... lorsque on va créer quelque chose, donc là en l'occurrence l'IA, elle va, alors de manière plus ou moins forte, mais entre guillemets, retranscrire ce que nous, on pense. On ne pense pas de manière neutre. Enfin, je pense que chacun a son avis, donc la neutralité n'a pas sa place ici. Et donc, du coup, ce que l'on va créer, par conséquence, ne sera pas neutre non plus. Donc voilà.
Et pour ajouter à l'idée, c'est que les concepteurs des IA, enfin de toutes les IA, on reflète des biais. Je rejoins l'idée pas seulement sur les opinions, mais des biais culturels, comme j'avais dit précédemment sur les inégalités existantes entre genre ou origine. Bien sûr, ça vient en compte sur que l'IA ne peut juste pas être neutre. Ça fait juste pas de sens de dire ça.
Ok, donc parce que c'est conçu par des humains, hein, mais ce vers quoi je voulais vous emmener, on conclura là-dessus, c'est que même en prenant cette hypothèse-là, qui, je suis d'accord avec vous, est fausse hein, dans tous les cas, eh bien, comme tu l'as montré, comme vous l'avez montré un petit peu avec les différents exemples que vous avez, de toute façon, elle va reconfigurer le monde, même si on avait une conception, entre guillemets, avec des concepteurs neutres. Encore une fois, on a bien dit, on a bien compris que ça ne pouvait pas être le cas. Mais même si c'était le cas, de toute façon, elle modifierait notre rapport à la recherche d'information, elle modifierait notre rapport à la formulation, notre rapport à l'orthographe, notre rapport au temps, notre rapport aux attentes, etc. etc. Donc on se retrouvait de toute façon avec des modifications. Et ça, quelque part, eh ben voilà, on peut pas y échapper. Et puis, comme on l'a vu également hein, dans une des émissions précédentes, même si à titre individuel, on se dit non, mais moi, par exemple, même je ne vais pas l'utiliser du tout, je vais faire très attention, etc. Mais en fait, on va être reconfiguré nous-mêmes dans nos usages par les usages que vont avoir les collègues. Hein. Une de vos collègues, prenez l'exemple de si tout le monde se met à utiliser l'IA pour faire ses devoirs de WE1, celui ou celle qui ne l'utilise pas va se retrouver à soit faire moins bien, soit prendre plus de temps, etc. Donc, quelque part, c'est quasiment impossible d'y échapper. Donc, en ça, au moins également en ça, il n'y a pas de neutralité. Voilà pour ce petit complément. Et puis. Peut-être qu'on va s'arrêter là parce que on va faire donc une petite pause hein, on va faire une petite pause jusqu'à 13h30 environ et donc on se retrouvera sur l'antenne à présent avec vos collègues d'un autre cours, le cours IS3 Lothéquisation et numérique. Donc c'est fini pour WE1, ça reprendra mercredi avec Quentin et cet après-midi on continue avec une autre thématique. Au revoir, à bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir, merci beaucoup.